Au-delà du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, regardez autour de vous un instant. Avec quels matériaux est construit l'endroit où en ce moment même vous écoutez la radio? Les murs, le toit, quelle énergie consommez-vous? Comment l'eau est-elle gérée? Et ce bâtiment dans lequel vous vous trouvez, dans quelle direction est-il orienté? Avec la raréfaction des ressources, le dérèglement climatique et l'évolution de nos modes de vie, répondre à ces questions devient crucial. Aujourd'hui, les constructions en terre abritent encore un tiers de la population mondiale. Et c'est une bonne nouvelle, car c'est le matériau le mieux adapté. Alors pourquoi rêvons-nous de verre, de béton et d'acier ? Par mes connaissances et parce que nous aspirons tous à la modernité. Alors ouvrez grand vos oreilles, car dans cette émission, nous allons vous emmener au cœur du Solar Décathlon, une compétition universitaire internationale où s'affrontent des étudiants en architecture, en ingénierie et en urbanisme, créée au début des années 2000 par Richard King, un Américain qui a travaillé pendant 10 ans au département de l'énergie au niveau fédéral aux États-Unis. Objectif, récompenser la meilleure maison solaire évaluée selon une dizaine de critères. La compétition a eu lieu en Europe cet été et en Afrique début septembre. Et pour votre plus grand plaisir, nos reporters sont allés guetter les innovations dans ces deux compétitions.
C'est pas du vent sur RFI.
Direction Budapest tout d'abord. La capitale hongroise a accueilli cet été le Solar Décathlon Europe 2019. Malgré la canicule, les étudiants ont trimé pour bâtir les maisons écologiques du futur, avec des matériaux recyclés, des façades végétalisées, des panneaux solaires. 10 critères sont évalués comme la performance énergétique, le confort, l'innovation, l'impact des matériaux. Pour cette année 2019, 13 équipes étaient en compétition représentant 27 universités de 8 pays et de 3 continents. Florence Labruyère est allée les rencontrer au milieu des chantiers.
Premier chantier, et je m'en souviendrai toute ma vie, ça c'est sûr et certain.
Il y a les trous qui sont derrière cette poutre en métal et on est en train d'essayer de rattraper le pas de vis. Et c'est relativement dur.
Nous sommes dans le parc de l'Université technologique de Saint-André, dans la banlieue de Budapest. 13 équipes universitaires du monde entier participent au concours Solar Décathlon. Alors il y a beaucoup de bruit dans le parc, chaque équipe est en train de construire sa maison éco-solaire. Celle de l'équipe française est bien avancée, c'est une petite maison à 2 étages. Les étudiants français viennent de Lille, dans le nord de la France. Ce sont de futurs architectes, de futurs ingénieurs. Et il y a aussi des compagnons du devoir, une corporation très ancienne qui forme des menuisiers, des charpentiers et des plombiers comme Antoine Delpech.
Je viens des compagnons du devoir de Lille et je réalise du coup l'installation solaire, eau chaude, eau froide, sanitaire, plus l'eau de pluie du bâtiment.
Ici, on est où exactement dans la maison en fait?
Alors ici, on se trouve dans le local technique, donc c'est ici qu'en fait que tout ce qui va passer énergétiquement sera contrôlé ici. C'est un peu le cerveau de la maison en termes de régulation, température, chauffage dans les pièces. Et en fait, le principe est qu'on va récupérer les calories de la chaleur du soleil pour les apporter dans nos ballons qu'on a ici. Là, en fait, on fait un prototype où il n'y a pas de chauffage d'apport. On se chauffe uniquement et principalement par le solaire.
Sur le chantier, tout le monde a un casque jaune sur la tête, c'est obligatoire. J'ai rendez-vous avec Vincent Ducaté qui coordonne l'équipe.
Moi je suis Vincent Ducaté, donc je suis architecte, je suis maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de paysage de Lille. Alors le thème du concours c'est de fabriquer une maison qui marche 100% à l'énergie solaire et le thème cette année du concours c'était de travailler sur les bâtiments existants. Et nous, on a choisi le bâtiment qui représente 60% des maisons de notre région. C'est ce qu'on appelle la maison 1930, c'est-à-dire la maison de l'ère industrielle, maison de briques du Nord. Cette maison en briques dans laquelle tout le monde vit depuis des générations.
Donc vous avez construit du neuf en vous inspirant du vieux?
L'intérêt aussi du projet, c'est qu'on voulait reconstruire une maison 1930 pour arriver à montrer, à démontrer comment on arrivait à la moderniser, à la faire fonctionner en maison à énergie positive. Donc voilà, là ici on est dans le salon, cuisine, de la maison la plus ordinaire possible, avec les proportions de cette maison qui ont été entièrement respectées pour montrer comment on peut améliorer une maison complètement ordinaire avec des moyens ordinaires.
Les Lillois ont repensé la vieille maison du nord de la France, mal isolée, mal ventilée, pleine de polluants. Ils ont utilisé des matériaux naturels, du bois et de la brique crue. Entre les murs, ils ont mis du métis, un textile fabriqué avec des chutes de blue jean, un très bon isolant. Et ils ont recouvert les façades extérieures avec de la chaux qui absorbe le gaz carbonique. À l'intérieur, pas de peinture sur les murs, mais un enduit naturel. Camille Huguet, étudiante en architecture.
Il y a plein de choses qui peuvent être faites avec des petits budgets et beaucoup de choses qui peuvent être faites main. Par exemple, les enduits, là, c'est de la terre. Donc, et moi qui n'ai jamais fait ça, j'ai été formée par le plâtrier qui connaît ça. Et c'est un matériau très, très simple à manipuler. Donc,
c'est uniquement de la terre ou c'est de la terre mélangée à quelque chose?
C'est un mélange de terre, de sable et de paille avec de l'eau. Et voilà. Et il y a vraiment un ressenti, je ne sais pas si vous le sentez, mais dans la maison, là, c'est frais, c'est agréable, on respire bien. Enfin...
Parce que cet enduit, il a quelle propriété ?
C'est de la terre, et donc la terre, ça gère beaucoup l'hygrométrie, en fait. Et donc ça récupère l'eau et ça et la chaleur, et ça la redisperse dans la maison par rapport à la température extérieure.
Donc est-ce que ça veut dire qu'il fera frais en été dans cette maison et chaud en hiver ?
C'est ça, exactement. Oui.
Sur le toit, il y a des panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité et des panneaux solaires qui n'en produisent pas mais qui récupèrent directement l'énergie des rayons solaires, même quand il y a des nuages, pour chauffer l'eau de la douche et de l'électroménager. Une installation innovante, explique Charles Lescure, coordinateur de l'équipe.
On a des éléments dans cette maison qui sont dimensionnés en fait pour plusieurs maisons et qui permettent de simuler un chauffage à l'échelle d'un petit bout d'îlot.
Une maison pourrait chauffer plusieurs maisons.
C'est ça, dans l'idée. Donc il y a un achat commun de matériel qui permet de faire des économies pour tout le monde et une installation qui va être reliée à plusieurs habitations. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright, it's alright. Little darling, it's been a long, cold and lonely winter. Little darling, it feels like years since you. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright, it's alright.
Direction l'autre bout du parc pour voir le projet des étudiants thaïlandais. Le Solar Décathlon Europe a lieu sur le continent européen, mais il accueille des candidats du monde entier, et notamment une équipe de l'université de Bangkok. Les étudiants ont construit une petite maison en bois de 50 mètres carrés avec une véranda vitrée. À l'entrée, il y a une jolie fontaine en pierre.
Je m'appelle Poon, je suis étudiant à l'université technologique de King Mongkut à Bangkok. Notre maison s'appelle le nid de résilience. Elle est conçue pour être installée sur le toit d'un immeuble. En Thaïlande, il y a une forte densité urbaine dans certains quartiers et la qualité de vie se dégrade. Pour rendre ces immeubles plus vivables, on a imaginé un espace supplémentaire sur le toit. Cette maison repose sur trois principes: symbiose, durabilité et résilience. Cette maison est en symbiose avec tout le bâtiment parce qu'elle collecte l'eau de pluie, mais pas seulement pour elle. Elle la redistribue aux autres logements de l'immeuble pour un usage sanitaire.
Vous avez construit la maison avec quels matériaux ?
C'est fabriqué principalement avec du bois d'EVA, un matériau durable et local. Les EVA sont abattus tous les 20 ans parce qu'ils ne donnent plus assez de latex. On trouve donc beaucoup de bois coupé sur le marché. Nous, on l'a chauffé pour qu'il soit plus résistant. Et on a fabriqué des panneaux qu'on a assemblés à la main. Pour monter la maison, on n'a pas eu besoin de machine ni de grue.
C'est donc un habitat qui est facile à monter soi-même. À l'intérieur, il fait frais car la structure en bois protège de la chaleur. Pour résister aux températures élevées de la Thaïlande, il y a aussi une climatisation qui fonctionne à l'énergie solaire. Et c'est un système innovant, souligne un autre étudiant.
En Thaïlande, pour blaguer, on dit qu'il y a trois saisons. Chaud, très chaud et hyper chaud. On n'a pas besoin de chauffage, mais par contre, on a vraiment besoin d'air conditionné. Et ça, ça coûte cher. Moi, j'ai de grosses factures d'électricité. On a donc installé des climatiseurs dans la maison. Ils évacuent la chaleur à l'extérieur. Et d'habitude, cette chaleur est gaspillée, mais nous, on récupère cette énergie pour chauffer l'eau de la maison. C'est le nouveau système qu'on a inventé.
L'une des façades de la maison est végétalisée. Il y a plein de petits pots où poussent déjà des tomates, des fraises et du persil. On commande l'arrosage automatique avec son téléphone portable. Ce jardin vertical est une note de verdure dans cette maison dessinée par les étudiants de l'université de Bangkok et qui est conçue pour être installée sur le toit d'un immeuble. À un autre endroit du parc, on voit une construction intrigante. C'est le projet des étudiants de l'université de Séville. C'est un grand cube blanc et quand on entre, on a l'impression d'être à l'intérieur d'un grand échafaudage. La structure est faite de poutres métalliques rouges. Il n'y a pas vraiment de mur. Les différents espaces et niveaux sont séparés par de grandes toiles en PVC et les planchers sont en bois. Rocío Curto, une étudiante en architecture de 23 ans, une jeune brune dynamique, présente ce prototype. Ce n'est pas une maison, c'est une stratégie de réhabilitation de quartiers ou d'immeubles délabrés. À Séville, il y a des HLM qui ont été construits pour les gitans et qui sont habités aujourd'hui par des immigrés ou des gens démunis. Ils sont tellement délabrés qu'on ne peut même pas y installer des câbles pour l'Internet. Comme il est impossible de rénover ces immeubles, les étudiants espagnols ont imaginé cet échafaudage qui va venir s'agrafer sur une façade du HLM. Il va être en quelque sorte une extension de l'immeuble.
Là, on est à l'intérieur de l'échafaudage, dans une grande pièce carrée qui évoque un patio ou un square. Ça peut être un espace de vie pour les habitants des HLM, un espace où ils pourraient être à l'ombre. Dans ces immeubles, il y a des personnes âgées qui ne sortent jamais de chez elles parce que l'ascenseur ne marche pas et qu'elles ne peuvent pas monter les escaliers. L'intérêt de notre projet, c'est de connecter les gens grâce à la technologie. En installant un ascenseur, on change la vie d'une personne handicapée.
Une fois les maisons construites, la deuxième partie du concours commence. Tous les jours, il y a une épreuve différente. Les jurys visitent les maisons et notent les candidats. Et les résultats sont annoncés en fin de journée. Aujourd'hui, c'est la réunion du jury qui évalue l'efficacité énergétique des projets. Richard King, le fondateur du Solar Decathlon, est là et il est très applaudi. Ce physicien américain a créé le premier Solar Decathlon aux États-Unis il y a 20 ans. Aujourd'hui, cet homme grand et affable, qui ne paraît pas son âge, est à la retraite, mais il continue à suivre la compétition. Cette année, il préside l'un des jurys.
The Solar Decathlon is made up of Le solar décathlon comprend 10 épreuves, d'où le nom de décathlon. Il y a des épreuves d'architecture, de design, de communication. Moi, je suis dans le jury qui juge l'efficacité énergétique de chaque maison. On regarde avec quels matériaux elle est bâtie et comment la structure permet de réduire le montant d'énergie consommé dans l'habitat.
Et comment allez-vous juger de l'efficacité énergétique d'une maison ?
Il y a des critères spécifiques dans le règlement du concours. Chaque coéquipier doit expliquer, avec des données chiffrées, le fonctionnement du chauffage, de la climatisation et de l'éclairage. Et puis, démontrer l'efficacité énergétique de leur installation solaire et de leur maison.
Après avoir construit leur projet, les étudiants y ont installé l'électroménager. Cuisinière, lave-linge, lave-vaisselle, rien ne manque. Faire vivre la maison, c'est l'une des épreuves du concours. Richard King.
Pour gagner des points, chaque équipe doit accomplir des tâches qui consomment de l'énergie. Par exemple, les étudiants doivent cuisiner pour 8 personnes. Ils invitent à tour de rôle des membres d'autres équipes à dîner. Donc ils font marcher le four, la cuisinière, et tous ces appareils consomment de l'électricité. Tous les jours, ils doivent faire marcher le lave-linge, l'eau chaude de la douche, comme si une famille vivait dans la maison. On leur demande aussi d'allumer la télévision et l'ordinateur plusieurs heures par jour. Et puis, chaque maison organise une soirée cinéma. Tous ces home cinéma consomment vraiment pas mal. Pareil, chaque équipe invite des membres d'une autre équipe. C'est sympa, ça permet de rencontrer ses voisins. Et comme ça, la maison dépense de l'énergie. Certains soirs, on leur demande d'allumer toutes les lumières. Le jury évalue aussi l'éclairage nocturne. Le but est de montrer au public qu'une maison solaire peut fournir toute l'énergie souhaitée, sans que vous ayez besoin de renoncer au confort de la vie moderne. Pour gagner des points à la fin du concours, normalement, chaque maison doit avoir son compteur électrique à zéro. Afin de montrer que toute l'énergie dépensée pour effectuer ces tâches a été produite par l'énergie solaire, que ce soit pour l'électricité ou l'eau chaude.
Ce soir, ambiance festive chez les étudiants espagnols. Ils organisent un dîner dans leur maison. Au menu, soupe au melon et foie grillé au bacon. L'équipe française a elle aussi invité ses voisins à dîner. Philippe Boulot, étudiant en architecture, est au fourneau. Il a préparé un repas végétarien. Alors, le menu, c'est quoi ?
Alors, en entrée, on va servir des tartinades, un houmous à la betterave. La betterave qui est un légume qui pousse dans le nord de la France. Et un deuxième houmous à base de fans de carottes. Utilisant les carottes dans la suite du repas, on s'est dit qu'on allait utiliser les fans de ces carottes-là pour faire une entrée, comme une mise en bouche. Ensuite, en plat de résistance, on a réalisé un velouté d'épinards accompagné d'une galette croustillante de légumes, carottes, pommes de terre, épinards, petits pois, et voilà. Et enfin, en dessert, on servira une pêche accompagnée d'une crème fouettée et de noisettes torréfiées.
Le concours est sur le point de s'achever. Dans le parc, il y a une grande tente de toile blanche où l'ambiance est fébrile. La cérémonie de remise des prix va bientôt commencer. En attendant de connaître les noms des gagnants, on retrouve Richard King, le créateur du Solar Décathlon. Richard King, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer ce concours ?
Au milieu des années 90, aux États-Unis et dans le monde, les chercheurs avaient déjà mis au point des panneaux solaires. Mais il n'y avait aucune production industrielle et les consommateurs ne comprenaient pas comment les installer sur une maison. J'ai pensé qu'il fallait aider les industriels à vendre ces produits produit et informer le consommateur sur l'efficacité de l'énergie solaire, dont le prix devenait abordable. Aussi, j'ai eu l'idée d'impliquer les écoles d'architectes et d'ingénieurs dans une compétition, avec pour objectif de dessiner des maisons que leurs consommateurs auraient envie d'acheter et de montrer qu'elles pouvaient fonctionner à l'énergie solaire. Moi, je suis un physicien. J'avais développé la technologie des cellules solaires, mais j'avais besoin de l'aide des universitaires, des ingénieurs et des designers pour faire sortir ces panneaux solaires du laboratoire et les proposer sur le marché.
Au départ, le Solar Decathlon était une compétition américaine organisée sous la tutelle du département américain de l'énergie, où vous travailliez à l'époque comme physicien. Alors comment est-ce que ce concours est devenu international ?
Après le premier concours, on a invité des équipes étrangères à Washington, et notamment l'Université de Madrid qui nous a dit « On voudrait organiser le Solar Decathlon en Europe ». Alors, le département américain de l'énergie a autorisé cette université à organiser l'événement, à condition de respecter le règlement du concours. Aujourd'hui, le Solar Decathlon a lieu en Chine, au Moyen-Orient, et pour la première fois, en Afrique, au Maroc. Parmi les participants, il y a des Européens et beaucoup d'équipes africaines qui ont une vision différente du design. Et puis, le climat n'est pas le même. Donc, on va voir plein de nouveaux concepts qui sont pertinents pour le continent africain.
Je suis vraiment, vraiment fier. Ça me donne larmes aux yeux. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment beau, en fait, ce moment-là. Sauf qu'on a commencé par un simple trait. Ça, c'est vraiment incroyable. Pour moi, c'était une partie des meilleures expériences de ma vie.
C'est l'équipe de Lille qui gagne le premier prix de ce Solar Decathlon Europe, un prix qui récompense particulièrement l'ancrage du projet des Français dans la réalité sociale. Après le concours, la maison restera dans le parc de l'université hongroise qui s'en servira comme objet d'étude. Mais le projet des Lillois devrait déboucher sur une réalisation concrète en France. Vincent Ducaté, professeur à l'école d'architecture de Lille.
Là, l'enjeu en rentrant, c'est de travailler sur 5 vraies maisons. Dans les 3 ans à venir, c'est d'arriver à rénover 5 maisons, de les faire marcher ensemble, de les habiter pour de vrai, et de voir qu'est-ce qu'on peut en apprendre pour arriver à rendre le système encore plus efficace, plus abordable, et en faire un véritable modèle qui puisse être ensuite appliqué un peu à toutes les rénovations de ce type de maison. Et puis voilà, ça c'est aussi le cœur du projet, cette dimension extrêmement sociale auquel on a tenu, c'est de faire un projet pour tous, un projet qui peut aider aussi les plus démunis à pouvoir vivre une vie correcte, avoir leurs enfants qui ne respirent pas des spores en suspension dans l'air à cause de l'humidité des maisons, enfin d'arriver vraiment à améliorer tout ça.
Dans la région de Lille, le projet séduit déjà les bailleurs sociaux.
un reportage de Florence Labruyère, réalisé par François Porcheron. C'est pas du vent sur RFI et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir le Solar Décathlon, une compétition universitaire internationale où s'affrontent des étudiants en architecture, en ingénierie et en urbanisme pour inventer la meilleure maison à énergie solaire. Créé au début des années 2000, le Solar Décathlon avait eu lieu sur tous les continents, sauf en Afrique. Mais début septembre, 1200 étudiants de 58 universités représentant une vingtaine de pays africains se sont affrontés au Maroc, à 70 km au nord de Marrakech, près de Benguerir. Théa Olivier est allée, pour ses pas du vent, assister à cette première édition du Solar Décathlon Africa.
Sous le soleil de Benguerir, 18 maisons solaires ont été construites en seulement 3 semaines par des centaines d'étudiants africains et internationaux. Carrées, rondes, en terre, en bois ou en conteneurs recyclés, il y en a de toutes les formes. Elles sont installées au milieu des travaux qui continuent autour pour fabriquer la plateforme de recherche de l'Institut marocain en énergie solaire et énergie nouvelle, l'IREZEN, qui abrite le Solar Décathlon Africa. Sarah Al-Kadiré est vice-manager de la compétition. Elle connaît par cœur les moindres recoins.
À partir de cette arche-là, c'est le village solaire.
Les maisons de ce village ont été conçues pendant plus d'un an, puis construites en 21 jours par des équipes universitaires grâce à un budget de $50 000 alloués par les organisateurs. Depuis le 13 septembre, toutes les maisonnettes sont debout et les jurys passent les évaluer. Au total, 10 épreuves vont les démarquer. Par exemple, les étudiants sont jugés sur l'architecture ou l'attractivité du marché.
On va pouvoir commencer par l'université panafricaine qui représente l'Union africaine.
La maison carrée au mur blanc est recouverte de dessins traditionnels de différents pays africains. Sur le toit, des panneaux solaires dont certains sont protégés par des roseaux. À l'intérieur, l'équipe de 12 nationalités africaines débriefe après le passage du jury. Béchir, étudiant tchadien, fait un master en énergie renouvelable à l'université panafricaine en Algérie. Il est fatigué, mais satisfait.
On a déjà eu 3 jurys qui ont passé. Les 2 précédents se sont bien passés. Et voilà, aujourd'hui également, on s'est bien défendu.
Bon, la construction, ça a passé pendant 3 semaines où on travaille du matin au soir, parfois jusqu'au petit matin. Les dernières semaines ont été un peu pénibles, quoi. Et de plus, comme étant une petite équipe, avec peu de moyens, ça a été un véritable challenge pour nous, pour en arriver là.
Son collègue congolais, Outachi Siran Dossil, est lui aussi étudiant en Algérie. Il fait le tour de la maison.
Nous recyclons des conteneurs pour en faire une maison un peu plus efficiente du côté climatique parce que nous produisons et nous consommons de l'énergie solaire pour notre maison.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la maison? Où est-ce qu'on est actuellement?
Présentement, là où on est, nous sommes dans la galerie. Ça, c'est notre côté jour de la maison. Nous avons un salon très spacieux fait à base de 2 conteneurs. Il y a un conteneur de 12 mètres qui commence dès là à l'autre mur de l'autre côté. Il y a aussi un conteneur que nous avons coupé en 2 pour augmenter l'espace du salon. À part ça, nous avons cet espace-ci que nous avons prévu pour l'aquaponique. L'aquaponique, c'est un système d'agriculture et aussi de pisciculture à l'intérieur de la maison. Malheureusement, nous n'avons pas pu finir le système encore aquaponique, mais la toilette devait être alimentée au système aquaponique pour le recyclage de l'eau à l'intérieur de la maison et éviter le gaspillage de l'eau. Nous avons aussi un patio intérieur. Il peut faire parfois très sombre à l'intérieur d'un conteneur. Donc on a dû faire des ouvertures sur les conteneurs afin que nous puissions avoir une luminosité suffisante grâce à ces patios. La beauté de la maison, si vous pouvez toucher de ce côté-ci, c'est un conteneur. Donc la beauté de la maison, c'est qu'elle est modulable. Et nous avons pris l'aspect modulable parce qu'on s'est dit qu'en Afrique, beaucoup de gens n'ont pas de maison et ils n'ont pas un logement. Nous prévoyons que ce soit une maison pour la classe moyenne et la classe qui n'est pas vraiment riche, la classe un peu pauvre de la société. Vu qu'elle est modulable, on a utilisé 6 conteneurs, on peut en utiliser 2 et construire la maison dans un espace de 20 jours. On croit aussi que ça peut être une très bonne solution pour les déplacés internes, victimes des guerres, victimes des désastres naturels, quand il y a une inondation, quand il y a une catastrophe naturelle. Parce que si on peut construire un camp à base de conteneurs dans 20 jours, ce serait vraiment plus durable que construire des tentes.
Et le budget pour construire cette maison, il a été de combien ?
Le budget pour construire cette maison, il a été de 50 000 $ qui a été donné par la compétition. Donc on s'est dit pourquoi pas ne pas excéder ces budgets et rester dans les limites de notre budget et essayer de donner une solution à l'Afrique avec ce qu'on a et prouver que c'est possible.
Et qu'est-ce qui coûte le plus cher ?
Ce qui coûte le plus cher, c'est encore l'énergie solaire. Mais heureusement que nous avons été financés, donc nous avons eu des sponsors qui nous ont donné des panneaux solaires. Et c'est un appel aussi aux sociétés, aux chercheurs à travers le monde, de pousser encore un peu plus la recherche dans l'énergie solaire pour baisser le prix.
Et pour vous, en quoi cette compétition est importante ? Parce que c'est la première fois qu'elle se déroule en Afrique.
La compétition est très importante pour l'Afrique parce que ça nous apporte énormément. Il y a des pays qui sont plus avancés, des continents qui sont plus avancés dans certaines technologies par rapport aux autres. Et on a appris beaucoup plus de technologies, par exemple des panneaux solaires. Et c'est une compétition très importante aussi pour le climat parce que ici, la plupart des participants, ce sont des jeunes. Et on est en train d'évoluer vers une dimension d'une planète verte.
Et ça vous permet d'avoir plus de perspectives d'avenir aussi en termes de débouchés ?
En tant qu'ingénieur, j'ai maintenant plus d'idées qu'au début de la compétition sur des solutions que je peux proposer dans mon pays et à certains de mes clients qui ont besoin d'une maison ou d'un nouvel aspect d'énergie. Je peux leur proposer de nouvelles façons. Mais aussi, il y a des sociétés toujours qui sont là et on fait des rencontres. Ils sont intéressés par nous, on est intéressés par eux. Et ça nous permet d'ouvrir plus de partenariats avec le milieu politique, le milieu entrepreneurial. Ce sont des grandes opportunités de financement et de partenariat.
D'un jardin de plantes grasses et au mur de pisé a été construite par une équipe 100% marocaine de 42 étudiants. Un projet de 227 000 $ réalisé grâce au partenariat de leurs nombreux sponsors. Mohamed Amin El Maraki est l'un des chefs de projet.
Bienvenue à Myopetra. L'idée c'était quoi ? C'était de concevoir une maison futuriste qui sera autonome et en même temps qui sera écologique.
Comment vous avez réussi à obtenir des sponsors et pourquoi c'est important ?
On avait dû faire beaucoup de prospection, de recherche de contacts de personnes. On a fait plusieurs réunions avec des directeurs de marketing, des DG de grandes entreprises. On a présenté le projet, on a présenté l'idée. Majoritairement, toutes les entreprises qu'on a contactées ont été vraiment agréables. Ils ont accepté le challenge qu'on a mis. Ils ont collaboré avec nous. Et donc l'importance du sponsoring, c'est d'avoir ces collaborateurs qui vont vous permettre d'avoir les dernières technologies, de vous encadrer, de vous guider, de vous donner des idées plus ou moins innovantes. Donc vraiment, la recherche du sponsoring fait une grande partie de la réussite du projet.
Et qu'est-ce qui les a intéressés dans votre projet ?
Principalement l'idée qu'on est des jeunes, on n'est vraiment que des étudiants, on a laissé l'espace à l'imagination. De deux, parce que le concept qu'on a fait, c'est un concept qui est nouveau au Maroc. On parle d'une maison qui est écologique, qui utilise des matériaux locaux. Donc on encourage déjà l'économie locale de la région. De deux, c'est intelligent, on parle du futur. Tout est contrôlé à travers des applications mobiles, à travers des interfaces. Ça permet d'avoir ce contrôle de production, de consommation. On arrive à être 100% autonome en termes d'électricité. Tout ça en utilisant des panneaux photovoltaïques et une batterie. On a aussi un autre système, c'est le système de traitement des eaux. Donc on a une station qui permet de traiter à la fois les eaux pluviales, les eaux grises et aussi les eaux usées. Les différentes eaux qu'on collecte, on les recycle, on les répartit par la suite. Une partie pour l'irrigation du jardin, une partie on la laisse passer pour les chasses d'eau. L'eau potable qu'on reçoit, on l'utilise principalement pour les douches et pour les lavabos.
Cette compétition, c'est la première fois qu'elle se déroule en Afrique. Qu'est-ce que ça représente pour vous, jeunes étudiants dans le domaine du développement durable ?
Alors c'est une très belle occasion, ça nous a permis de rencontrer les professionnels et de passer du cadre théorique à vraiment à la pratique. On voit comment ça marche dans le marché du travail, en même temps on applique ce qu'on a appris dans l'école.
Et comment vous voyez le futur alors suite à cette compétition ?
Ici aujourd'hui on se retrouve dans la ville verte de Bingerir. L'objectif de cette ville c'est vraiment de construire des maisons qui sont écologiques et qui répondent aux différents challenges africains. Donc nous on s'est dit voilà, on va concevoir une maison qui sera intégrée dans ce territoire et qui sera par la suite dupliquée à grande échelle.
Et vous avez déjà des opportunités qui se présentent ?
Oui, on commence déjà à recevoir plusieurs opportunités de la part déjà des partenaires qui travaillent avec nous et en même temps à travers les visiteurs qui sont passés par ici depuis l'ouverture sur le grand public. Donc on a reçu pas mal de demandes et on a aussi pas mal d'offres et après la compétition, on se prépare déjà pour des réunions.
Mais tous n'ont pas les mêmes facilités pour s'intégrer à un marché, comme l'explique Asna Bazine du projet de l'université marocaine de Beni Mellal en partenariat avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Nous avions une contrainte de temps parce qu'on a construit toute cette maison en 3 semaines. Une contrainte de sponsoring parce qu'on n'avait pas trop de sponsors. Nous, on vient de la région Beni Mellal, il n'y a pas trop d'entreprises. Donc le coût de la maison, il est de l'ordre de 36 000 dollars. Donc on a essayé de construire une maison pas chère destinée à la classe moyenne.
Suite à cette compétition, oui. Comment vous voyez la suite ?
Donc on espère faire une publicité pour ce modèle, pour qu'il soit construit dans les régions rurales, pour les logements des fonctionnaires, les hôpitaux, les écoles, et également pour les gîtes dans les montagnes, pour améliorer le tourisme et l'économie du Maroc. Donc c'est un modèle qui est rentable à court et à long terme.
Dans quoi vous avez innové dans votre maison ?
Nous avons essayé de construire une maison efficace énergétiquement, sans utiliser de climatiseur, sans utiliser de ventilation. La fraîcheur est naturelle, donc c'est la durabilité à faible coût. C'est notre innovation.
Et au niveau des matériaux, est-ce que c'était facile ?
Oui, d'abord, notre vision était de se baser sur les matériaux locaux de la région. Le bois, l'argile, la paille, tout est disponible. Pour le toit, on l'a fabriqué avec du bois de cèdre pour son odeur. Également, il éloigne les insectes. En ce qui concerne les portes et les fenêtres, elles sont recyclées. Cette porte d'entrée a 63 ans. En ce qui concerne les teintes, toutes les teintes sont naturelles, à base de plantes, à base de pigments. Il y a par exemple l'écorce de grenadine. Tous les éléments de la maison sont naturels. Pas de produits chimiques, ni dans la construction, ni dans la peinture, à part la domotique bien sûr. Même les panneaux solaires sont fabriqués au Maroc, donc on n'a pas eu à importer les panneaux solaires.
La maison de l'université sud-africaine. Construite à partir de conteneurs, elle est recouverte de bâches blanches et décorée d'un revêtement extérieur tressé de toutes les couleurs. Shan Almaoumadi, étudiant en développement durable aux cheveux longs habillé d'un short et de sandales, est responsable de la communication du projet.
From the main base of the container, which houses our kitchen and our bathroom and a lounge.
Depuis la base principale du conteneur qui héberge la cuisine, la salle de bain et le salon, nous avons agrandi pour avoir 2 modules en bois où se trouvent les chambres. Ensuite, à l'extérieur, pour représenter les couleurs et la diversité de l'Afrique, nous avons utilisé d'anciens sacs en plastique colorés qui ont été recyclés par une initiative sociale et environnementale appelée le projet plastique. Ce projet est une manière créative de créer des emplois en Afrique du Sud, où ceux qui étaient auparavant exclus de l'économie récupèrent des sacs en plastique, les coupent en longues et fines lamelles et les tressent ensemble. Nous expérimentons cela pour les façades des maisons et pour voir quelles pourraient être les propriétés d'isolation. L'idée de notre équipe, c'est d'utiliser un ancien conteneur de marchandises dans lequel tout le matériel de la maison peut être rangé. La maison peut alors être transportée à travers l'Afrique subsaharienne. La maison est faite de conteneurs recyclés, donc 2500 kg d'acier qui sont réemployés, ça contribue à baisser notre empreinte carbone.
C'est la première fois que la compétition a eu lieu en Afrique.
C'est historique, oui, définitivement, parce que le secteur de la construction est l'un des premiers responsables de la dégradation de l'environnement. Actuellement, la situation est que nos émissions de dioxyde de carbone sont deux tiers supérieures à ce qu'elles devraient être. La situation est donc critique. Avoir une compétition entre les universités est vraiment bénéfique. Et j'espère que nous pourrons pérenniser cet élan pour remodeler les industries de la construction et de l'énergie.
Pourquoi est-ce que c'est particulièrement important de le faire ici, en Afrique ?
Le changement climatique va d'abord affecter ceux qui ont le moins. L'économie globale a presque fait de l'Afrique le continent le plus pauvre, ce qui signifie que les Africains sont les moins résilients pour pouvoir faire face aux enjeux du changement climatique. Et les problèmes seront plus durs à affronter ici. C'est pour cela que c'est important.
Qu'est-ce que vous attendez après cette compétition ? Quelles pourraient être les conséquences pour votre projet ?
Nous espérons finir dans les trois premiers. Ensuite, nous espérons avoir un financement pour construire une autre maison en Afrique du Sud. Nous avons noué de bons contacts dans différents pays ici. Nous avons de bonnes relations technologiques avec des fabricants d'énergie solaire. Et j'espère que le prix du solaire va baisser davantage, ce qui permettrait d'avoir une maison encore moins chère et plus adaptée au contexte africain.
Professionnaliser les étudiants, c'est bien l'un des objectifs de Badr Iken, directeur général de l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle.
Aujourd'hui au Maroc, nous avons une bonne formation d'ingénieurs, mais c'est des formations qui sont plutôt très théoriques. Il manque l'aspect travaux pratiques. Et en ce qui concerne la recherche, nous avons aussi une bonne recherche fondamentale. Et là encore, il manque plutôt la recherche appliquée et puis de passer de la recherche appliquée à l'innovation. Dès le début, on a compris que ça allait être une très très bonne opportunité d'exploiter cet événement.
Qu'est-ce qui se passe après ce Solar Décathlon?
Alors écoutez, là, c'est vraiment une différence par rapport aux autres éditions. C'est une grande différence parce que nous avons installé notre Solar Décathlon à l'intérieur d'une plateforme de recherche. On a déjà plusieurs maisonnettes qui vont servir à des tests et donc il y aura tout un monitoring et des comparaisons. Donc c'est une sorte de laboratoire à grande échelle. Et donc dans ce contexte-là, on a rajouté les maisonnettes du Solar Décathlon. Donc une bonne partie des maisonnettes du Solar Décathlon vont rester sur le site et vont servir également à de la formation pratique, vont servir à la recherche appliquée et à l'innovation. Avec la région de Marrakech, il y a déjà un intérêt pour voir quel type de maisonnette pourrait être utilisée pour des classes d'école. Et on va commencer avec des projets pilotes, peut-être une dizaine, donc ça c'est une bonne chose. Avec notre partenaire industriel, le groupe OCP, il y a également aussi un intérêt par rapport à une de leurs cités. Et puis il y a plusieurs porteurs de projets qui ont de très très bonnes idées pour des matériaux d'isolation tels que les murs et les plaques d'isolation thermique et d'isolation phonique à base de chanvre, donc à base de fibres de cannabis. Donc il y a énormément de choses qui pourront également aussi être accompagnées pour aller vers une valorisation industrielle et une commercialisation.
Quelle est la spécificité d'un Solar Décathlon en Afrique par rapport à un Solar Décathlon en Europe, comme vous avez pu le voir en France ?
Première différence par rapport aux autres Solar Décathlon, c'était des équipes qui ont trouvé un brassage de différentes nationalités, plusieurs universités du sud, du nord, nord, sud, sud. De l'autre côté, nous avons essayé aussi d'encourager l'utilisation de matériaux locaux et à essayer au maximum de développer les composants et les maisonnettes ici sur place. On a constaté beaucoup de techniques ancestrales optimisées et adaptées aux technologies d'aujourd'hui.
Et concernant les difficultés que vous avez pu rencontrer, quand on est une équipe avec une université africaine et à travailler ici au Maroc, quels autres problèmes on peut trouver, peut-être en termes de financement par exemple ?
Alors, nous avions assuré un financement minimum, comme les autres Solar Décathlon, de 50 000 $ par équipe. Et effectivement, à un moment, nous avons été obligés de remonter cette barre et puis de rajouter des financements à toutes les équipes. C'était effectivement difficile, puisque nous n'allons pas trouver un tissu industriel aussi développé qu'aux États-Unis ou qu'en Europe. pour trouver les sponsors. Par contre, ce qui a été très très positif, c'est qu'il y a eu beaucoup de petites et moyennes entreprises qui ont soutenu l'événement, qui ont soutenu les équipes en nature.
De quel montant est l'investissement et le budget d'un Solar Décathlon ?
Un Solar Décathlon, il faut compter des budgets entre 3 à 4 millions d'euros. C'est vraiment une compétition qui reste onéreuse, mais qui à la fin profite à énormément de personnes. Et souvent le grand défi chez nous au niveau du Maroc et au niveau de plusieurs pays africains, c'est l'aspect organisation, coordination. Et là, je peux vous dire qu'on est en train de découvrir les chefs de projet de demain, des managers de demain. S'ils sont arrivés à réaliser ces maisonnettes, tout un village en 3 semaines, eh bien, ils seraient capables de tout.
Le fondateur du Solar Décathlon, Richard King, était présent pendant toute la compétition. Retraité du département américain de l'énergie, il est ravi de cette édition africaine.
The Solar Decathlon is all about education.
Le Solar Décathlon met la priorité sur l'éducation. Nous avons besoin d'éduquer les jeunes architectes et ingénieurs, ainsi que les étudiants à travers le monde. Un seul pays ne peut pas résoudre le problème du changement climatique. Donc nous avons besoin de continuer à éduquer les étudiants, les professionnels et le public à travers le monde.
North America, in the United States, in Europe.
Nous l'avons fait en Chine, aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Afrique. C'est le dernier continent sur lequel nous allons.
Quelle est la différence ici en Afrique ?
It's local materials here in Africa.
Ce sont des matériaux locaux qui sont utilisés ici en Afrique. Et en plus, il y a la culture locale. Ils utilisent beaucoup de briques et de matériaux faits à la main. C'est ça la différence.
Pourquoi avez-vous choisi de venir au Maroc ?
Le
directeur de l'Institut IREZEN est venu au Solar Décathlon européen, le troisième, qui se passait à Versailles en France en 2014. Et il a été tellement impressionné par la compétition qu'il nous a dit qu'il voulait en organiser une en Afrique, au Maroc. Voilà comment je me suis retrouvé ici.
Et quel est votre regard maintenant que vous êtes sur le terrain ?
Les équipes sont constituées de travailleurs acharnés. Je suis impressionné par leurs ressources. Les étudiants sont brillants, intelligents et ils connaissent bien les technologies. Ils ont des maisons intelligentes, d'excellents systèmes solaires et de bons matériaux de construction. Je suis assez impressionné par tout ce que j'ai vu ici. Le Maroc est un des leaders ici en Afrique. Ils ont un merveilleux institut, beaucoup de systèmes solaires. Ils font de la recherche sur différents matériaux de construction pour trouver comment construire de façon plus efficace, à moindre coût. Clairement, le Maroc est autant capable et avancé que beaucoup de pays en Europe ou que les États-Unis.
Les étudiants attendent la deuxième édition africaine avec impatience. Pour le moment, rien de prévu. Il faut déjà organiser les éditions qui auront lieu en Colombie au mois de décembre et à Dubaï l'année prochaine.
Et c'est l'École nationale d'architecture de Marrakech et l'École des mines du Colorado qui ont remporté ce Solar Décathlon Africa 2019. Pour en savoir plus sur cette compétition, vous trouverez toutes les informations sur le site solardecathlonafrica.com. Merci à Théa Olivier pour ce reportage, à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, bien sûr, pour votre fidélité et pour vos nombreux messages. N'hésitez pas, par mail, c'est tout simple, c'estpasduvent@rfi.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.